cours de philosophie politique par le père Philippe, Saint-Joseph, le 22 janvier 85.
Si la philosophie politique a pour objet de déterminer ce qu'est la relation entre la partie, l'homme, la famille, l'État et le tout, la famille, l'État, l'ensemble des États, ne pouvons-nous pas essayer de chercher ces principes en déterminant les deux termes corrélatifs de cette relation, son fondement, son exercice, son sujet. L'objet propre de la philosophie première, de la philosophie politique, c'est le bien commun. Ce n'est pas une relation. Bon, continuons l'esclavage. C'est bien, n'hésitez pas à poser vos questions, je réponds rapidement quand il faut répondre rapidement. Et puis on continue. Alors, je crois qu'on en est au chapitre 5. Hein. Alors on va lire un tout petit peu d'Aristote ici, parce que je vous ai dit, cette partie est intéressante, elle est très intéressante. C'est sûrement la partie qui demanderait le plus un aspect critique sur Aristote, mais qui est important à saisir. Mais est-ce qu'il existe des hommes présentant naturellement pareil caractère? Ou bien y en a-t-il pas? Question de fait. Y a-t-il des hommes incapables d'atteindre le point de vue de la prudence, quoi? Parce que tout est là, hein. Est-ce qu'il y a des hommes chez qui la prudence ne peut pas aller plus loin que enfin, si vous voulez, quelque chose d'immédiat? Et donc, leur bien consiste à être relatif à celui qui est prudent. Instrument au niveau de l'action, c'est ça. C'est-à-dire coopérer au niveau de l'action. Et au niveau de l'action morale, qui implique la prudence. Oui. Les degrés dans l'ordre de l'humanité, se prennent du côté de la connaissance et non pas du côté de l'appétit. Tout le monde est capable d'aimer d'une certaine manière, mais c'est du côté de la connaissance qu'on peut voir si on a affaire à quelqu'un qui demande d'être relatif à un autre. Pour son bien, hein, prenez bien, c'est pour son bien. Alors nous avons de la peine nous, à comprendre ça parce que nous avons tellement souffler sur la liberté, que la liberté est devenue un absolu. Alors pour nous, tout semble, dès qu'on touche à la liberté, ça c'est une question affective que nous ressentons tous du reste, hein, parce que nous sommes tous de la dernière partie du XXe siècle. Alors nous ressentons tous ça. Et ceci c'est à partir de Descartes, hein, faut pas l'oublier. On est tous petits-fils de Descartes. Sur les bords. Alors, il y a quelque chose de Descartes qui demeure, parce que avant Descartes, on ne peut pas dire que la liberté était mise comme un absolu. Pour saint Thomas, ce n'est pas mis comme un absolu. Pour saint Augustin, non plus. Pour Aristote, non. Pour Platon, non plus. C'est Descartes qui a inventé ça. Il faut le reconnaître. C'est Descartes qui a dit que par où on était le plus proche de Dieu, c'est le point de vue de la liberté. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très particulier. Pour lui, la liberté, notre liberté, la liberté de Dieu, elle est presque univoque. C'est l'absolu qui est dans nous. C'est la liberté. Alors ça dirait, très bien, vous êtes libre, mais qu'est-ce que vous allez en faire, votre liberté? Si vous n'êtes pas capable d'aimer, si vous n'êtes pas capable d'atteindre un bien, qu'est-ce que vous allez en faire? L'amour, on n'en fait rien, on aime. Tandis que la liberté, je suis libre. Je suis libre. Oui, vous allez crever de faim. Ah, je suis libre. Je crever de faim, ça n'a pas d'importance. Personne ne m'aime, je n'aime pas, mais je suis libre. Hein, à quoi ça sert? Oui, c'est important ça. Parce que je crois qu'il faut sentir ça. Il faut sentir le côté affectif de notre monde d'aujourd'hui. Il faut sentir la sensibilité de notre monde d'aujourd'hui. Donc il faut toujours faire grande attention. Hein, dès que vous touchez la liberté, ou alors faites attention. Hein. Il faut faire attention parce que tout de suite, les gens hurlent comme si on les écorchait vifs. Il faut faire attention, il faut sentir soi-même. Et puis il faudra arriver petit à petit à comprendre exactement la place de la liberté. Alors, voyez la question d'Aristote. Hein. Est-ce qu'il existe des hommes présentant naturellement, c'est toujours le fousail, pareil caractère, ou bien n'y a-t-il pas? Et y a-t-il quelque être pour lequel il soit préférable, il soit meilleur, et juste d'être esclave? Ou si au contraire, il n'y en a rien si l'esclavage est toujours contre nature. Voilà ce que nous avons maintenant examiné. La réponse n'est pas difficile. Vous n'attendez pas à ça, vous attendez plutôt la réponse est difficile. La réponse n'est pas difficile. Le raisonnement nous le montre en même temps. Le raisonnement, ce n'est pas le raisonnement, hein. C'est logo. C'est par le point de vue le point de vue de l'intelligence, si vous voulez. Parce que le raisonnement, ce n'est pas une affaire de raisonnement, c'est une affaire de pénétration de l'intelligence. Donc, par l'intelligence, on peut le comprendre, en même temps que les faits nous l'enseignent. L'autorité et ce qui sont non seulement des choses, l'autorité et la subordination, c'est-à-dire au fond ceux qui sont soumis, sont non seulement des choses nécessaires, mais encore des choses utiles. C'est toujours à partir de là qu'Aristote revient. C'est que exercer l'autorité et exercer l'exécution par rapport à l'autorité, c'est nécessaire pour qu'il y ait coopération. C'est pour ça que je crois qu'il n'y a pas de philosophie politique sans le problème de la coopération. Nous le verrons après. Aristote ne le situe pas comme ça, vous voyez. Il le situe autrement. Il le situe tout simplement par ce fait que celui qui exerce l'autorité et celui qui exerce, ceci est nécessaire pour que la coopération existe. Il en faut un qui exerce l'autorité et un qui exécute. C'est nécessaire. Exercer l'autorité, c'est la prudence. Exécuter, un minimum de prudence. Pour comprendre qu'il est bon pour nous d'exécuter. C'est un minimum de prudence. Hein. Parce que si on n'a aucune prudence, on exécutera comme quelque chose d'inanimé. Mais si on est un être animé et intelligent, on comprend qu'il est bon pour nous de nous rattacher à quelqu'un de plus intelligent que nous. Et c'est vrai. Quand vous êtes à côté de quelqu'un de plus intelligent que vous, vous participez à son intelligence. Tandis que si vous êtes seul et que vous êtes peu intelligent, vous sentez votre nudité. Mais il faut être suffisamment intelligent pour comprendre que on n'a pas assez d'intelligence. C'est déjà quelque chose. Donc, l'autorité et celui qui exerce l'autorité, qui exécute, sont non seulement des choses nécessaires, mais encore des choses utiles. C'est immédiatement après la naissance qu'une séparation s'établit entre certaines réalités. Les unes étant capables de commandement, les autres capables d'exécuter. Et il existe de nombreuses espèces d'êtres qui commandent et d'êtres qui sont commandés. Et toujours, alors toujours le petit principe que dit Aristote, vous voyez, constatation de nature. Et Aristote a l'air de dire que c'est un fait de nature. C'est vrai et ce n'est pas entièrement vrai. On affirmerait, nous, dans notre monde d'aujourd'hui, avec moins de force ça. On dirait que c'est vrai, il y a des gens qu'on aura beau essayer d'éduquer qui seront très difficiles à dépasser un certain niveau. Un certain niveau, ils n'en peuvent rien, c'est un fait. Mais on ne peut pas toujours le dire. Il y a des surprises en bien. Il y a des surprises en mal aussi, n'est-ce pas? Parce qu'on croyait que celui-là était capable. C'était génial. La première fois que j'ai vu, c'était un génie. Oui, attention. Voyez jusqu'où il peut aller. Alors, et toujours est plus parfait l'autorité qui exerce sur les subordonnés dont la nature est elle-même plus parfaite. Par exemple, il est préférable de commander à un homme qu'à une brute. Le travail, en effet, est d'autant plus parfait qu'il est accompli par de meilleurs ouvriers. Et partout où il y a le facteur dominateur et le facteur subordonné, le facteur, c'est-à-dire ceux qui commandent et ceux qui sont subordonnés, leur rencontre aboutit à une œuvre déterminée. Ça, c'est très important. On y reviendra. Et voyez, Carissat souligne que c'est la chose très très importante, car dans toutes les choses où plusieurs parties se combinent pour produire quelque réalité possédant unité de composition, que ces parties soient continues ou discontinues, dans tous ces cas se manifeste clairement la dualité de ce qui commande et de ce qui est commandé. Bon, c'est la coopération. Moi, je crois qu'il faut traduire ça, la coopération, c'est, pour nous, c'est très facile à comprendre. Deux êtres qui coopèrent, il y en aura toujours un qui prendra le levier et qui commandera, et puis l'autre qui exécutera. Tout à l'heure, hein? Même si au début c'est l'inverse, au bout d'un certain temps, ils sont suffisamment intelligents pour faire ça. Mais c'est le tandem. Il y en a un qui conduit, l'autre qui est derrière et qui pédale. Les deux pédalent, c'est sûr, il y en a un qui conduit. Et alors, au bout d'un certain temps, il dit, mais tu conduis comme un âne, mon vieux. Alors, je vais prendre ta place. Mais l'autre, il voit qu'il conduit beaucoup mieux. Oui, il vaut mieux que tu restes là. C'est beaucoup plus efficace et ça va beaucoup plus vite. C'est ce qu'on fait automatiquement. On est deux dans une auto. Il y en a un qui conduit comme un pied. Mais c'est pas l'autre qui conduit très bien. Bon, au bout d'un certain temps, même si au point de départ, l'autorité était celui qui conduisait comme un pied, n'est-ce pas? Au bout d'un certain temps, l'autre s'est dit, non, il faut beaucoup mieux. Ensemble, pour le bien commun des deux. Pour le bien commun des deux. Hein. Ça se fait automatiquement. C'est ça qu'Aristote veut dire. C'est naturel. Vous voyez, c'est pas un a priori. C'est pas du tout un a priori. C'est l'expérience qui montre ça. À moins que vous soyez complètement tellement orgueilleux que vous voulez à tout prix commander. Peu importe, on va tous les deux à l'abîme, ça n'a pas d'importance, au moins on y va ensemble. Quelquefois, vous voyez, c'est ce qui arrive, ça c'est l'orgueil. Mais l'orgueil n'est pas naturel. Ah. L'orgueil n'est pas naturel. Parce que l'orgueil, c'est la perte de la finalité. Donc c'est antinaturel. Alors, Aristote raisonne, c'est ça que nous avons beaucoup de peine à comprendre. Il raisonne en philosophe, c'est-à-dire tout le temps dans cette objectivité. Dépassez vos a priori et comprenez que de fait, il y a une inégalité dans les hommes. Il y a une inégalité et quand on dit qu'il y a coopération, il y en aura toujours un qui aura une possibilité de mieux voir, de mieux présenter. Dans tel domaine, l'autre verra mieux dans tel autre domaine. C'est du reste comme ça qu'on pourra arriver à s'entendre. Quand ils sont en auto, il y en a un qui commande mieux, qui est moins. Mais s'il y a une panne, c'est l'autre qui sera le mécanicien le meilleur. Il y a ce moment, il reprendra du poil de la bête, il dira, ah, c'est ça, tu vois. Et c'est lui qui commandera. Parce que ce n'est pas les mêmes. Peut-être les mêmes. Ce n'est pas toujours les mêmes. Il y en a un il y a des gens qui sont merveilleux pour les situations critiques et jamais pour les situations normales. Et il y a des gens qui sont effrayants pour les situations critiques. C'est curieux, mais c'est comme ça. On a vu ça pendant la guerre. Dans le maquis, c'était comme ça. Les gens qui étaient bons pour des coups de chien, c'était effrayant dans le commandement habituel. De façon générale, c'est comme ça. Alors on dit, c'est des têtes brûlées. Oui, c'est des têtes brûlées, mais on en a besoin. On a besoin de ces gens qui sont capables d'aller très loin à certains moments. Et à ces moments-là, ils trouvent une espèce d'intelligence très curieuse. C'est ce qu'Aristote veut montrer, ça. C'est pour le bien des deux. Et ça, c'est capital. C'est pour le bien des deux. Si on est suffisamment intelligent, on s'aperçoit qu'il vaut mieux laisser l'autre passer devant prendre le commandement parce qu'il a une prudence plus grande. Alors vous allez dire, ah, il faut alors des tas d'expériences, oui. Mais ça se fait assez vite, vous savez. Le discernement se fait assez vite. Hein. Et cette distinction qui est présente dans les êtres animés relève d'une loi universelle de la nature. Puisque même dans les êtres qui n'ont pas la vie en partage, on rencontre une sorte d'autorité, comme c'est le cas par exemple d'une harmonie. Il y a des réalités physiques qui sont plus parfaites que les autres. Et il est bon pour les autres d'être à l'ombre d'elles. C'est toute la grande vision d'Aristote sur le lieu, au point de vue physique. Le lieu, c'est justement ce qui va permettre à une réalité physique d'être en harmonie. Et si on supprime cette harmonie, on met le désordre. Autrement dit, hein, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'il y a un ordre naturel. C'est cette idée fondamentale de la phusis. Qui dit phusis pour Aristote? Qui dit phusis? Qui dit nature? Qui dit phusis dit ordre. Un ordre dynamique. Un ordre ordonné vers un bien. Bien, il faut redécouvrir cet ordre. Et quand il s'agit de l'action humaine, parce que là nous avons une action. L'action humaine, c'est bien l'action morale. Et qu'il faut une harmonie entre les deux, l'harmonie première dans l'action, c'est celui qui commande et c'est celui qui obéit. Je sais que c'est très difficile pour nous hein, de redécouvrir ça. C'est très difficile, mais si on a un peu de bon sens, on s'en aperçoit vite. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement d'a priori contre l'autorité. On en a tous des quantités. Et puis Freud, ça s'accumule. On a des quantités d'a priori contre l'autorité. Et on ne peut pas accepter et reconnaître que l'harmonie première dans l'action, c'est celui qui commande et celui qui obéit. Ça, je crois que c'est très très important. C'est une vision naturelle au niveau humain, d'harmonie et d'ordre. Vous voyez, c'est une question d'ordre. Et je crois très fortement que c'est une question d'ordre. Mais ces dernières considérations relèvent sans doute d'un examen trop étranger à notre sujet. Ça, c'est aussi très intéressant comme méthode. Vous voyez, Aristote montre que ce lien entre l'autorité et celui qui exécute, c'est une harmonie qui correspond à toute une grande harmonie dans l'univers, et donc qui se fonde sur la phusis, qui implique un ordre. Même dans les réalités non vivantes, il y a des réalités qui ont une qualité plus grande les unes que les autres. Ça, je crois que c'est vrai, dans l'ordre des qualités. Les anciens disaient toujours hein, les quatre éléments, et les quatre éléments qui sont à la racine de tout, il y a un ordre. Il y a la terre et le feu. Et le feu a une noblesse plus grande que la terre. Et les qualités du feu sont qualités plus grandes que celles de la terre. Et c'est pour ça qu'il y a un ordre. Et c'est pour ça qu'il y a une harmonie. C'est redécouvrir cette harmonie fondamentale qui repose sur les qualités. Et les qualités au sens le plus fort, les sensibles propres, et non pas les sensibles communs. Les sensibles communs empêchent de découvrir cette harmonie, parce qu'on nivelle. Tandis que les sensibles propres, alors eux, nous font découvrir cette harmonie foncière dans laquelle s'inscrit notre propre connaissance. Alors vous voyez, Aristote souligne ça, il se laisse emporter par son point de vue philosophique, que je comprends très bien, de montrer que le point de vue, le couple, celui qui commande et celui qui obéit, correspond à toute une grande vision de l'univers. C'est quand même très beau, ça. Vous voyez, pour justifier qu'il y en a un qui commande et l'autre qui obéit, on va jusqu'à l'harmonie de la phusis. C'est très étonnant. Ça, c'est une vision, vous voyez, vraiment de sagesse. Et une harmonie de sagesse qui est importante à voir. Aristote dit, n'insistons pas, c'est pas notre sujet. Non, ce serait une vision de sagesse, ce n'est pas le point de vue directement politique. Pour nous en tenir à l'être vivant, rappelons d'abord qu'il est composé d'une âme et d'un corps. Ah, alors, On monte au niveau philosophie de la nature, que la philosophie de la nature implique l'harmonie. Toujours. Il y a une harmonie dans le monde, il y a un ordre dans le monde. On ne peut pas nier ça. C'est là où on rejoint, vous voyez, des grandes visions qui nous sont données dans le livre de la sagesse. Tout a été fait avec ordre. C'est quand même très intéressant, hein, de voir qu'au point de vue d'une philosophie purement qualitative, on rejoint cette grande vision, tout a été fait avec ordre. C'est une des grandes intuitions de toute la théologie de Saint-Augustin. Et Saint Thomas, on peut dire que c'est l'intuition dominante de toute la théologie de Saint-Augustin, je crois que c'est ça. C'est que tout a été fait avec ordre. Il revient tout le temps là-dessus. Ordre, mesure et poids. Hein? Ordre, mesure et poids. Ce qui est dit dans le livre de la sagesse. Alors, Aristote souligne que ceci est en harmonie, ou se fonde sur cette harmonie. Alors ici, on va prendre quelque chose de plus immédiat dans le point de vue du vivant. Dans le vivant, l'homme est un vivant, c'est le vivant le plus parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'âme et le corps. Dans le vivant, il y a l'âme et le corps. En tout vivant. Composé d'un... Et que ces deux éléments, ces deux principes, le premier est par nature celui qui commande, et l'autre est par nature celui qui est commandé. Par nature, hein, si vous êtes un homme, normalement, votre âme spirituelle commande votre corps. Mais nous devons examiner ce qui est par nature de préférence chez les êtres qui sont dans un état normal et non chez ceux atteints de corruption. Là encore un petit principe philosophique, très intéressant. Le philosophe sait qu'il y a des expériences malheureuses qui sont contre nature. On ne va pas faire la philosophie à partir de là. Alors vous allez dire, ça a un a priori, ça. Oui, bien, il le dit. Mais nous devons examiner ce qui est par nature, de préférence chez les êtres qui sont dans un état normal et non ceux qui sont atteints de corruption. On ne fait pas une philosophie à partir du mal. On ne fait pas une philosophie à partir de la maladie. On ne peut pas. On fait une philosophie à partir d'un homme sain. Alors, ce discernement, il se fait à partir de quoi? Ça, c'est un discernement important. Dans une vision de sagesse, je comprends très bien, on peut le faire tout de suite. Mais dans une vision qui n'est pas une vision de sagesse, alors, je crois que c'est toujours la finalité. Seul un être sain atteint sa finalité. Pour le corps, la finalité, c'est la santé. Pour le corps qui n'atteint pas la santé, il n'atteint pas son bien. Il est malingre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, chez quelqu'un qui n'a pas la santé, le corps peut l'emporter sur l'âme. Tandis qu'au contraire, sur celui qui est en bonne santé, un temps normal, c'est l'âme qui commande le corps. Et par suite, c'est l'homme se trouvant dans la meilleure condition possible, sous le rapport à la fois du corps et de l'âme, qui doit faire l'objet de notre étude. Il est honnête, il le dit. Et c'est vrai, je ne veux pas partir du malade. C'est toute la différence avec Freud. Vous voyez, quand vous regardez la vision freudienne, vous voyez qu'il part du malade. Et c'est à partir du malade qu'il construit la vision qu'il a sur l'homme. Déclin d'une civilisation. Vous voyez la grande vision freudienne philosophique à la fin de sa vie. N'est-ce pas ? Eh bien, si vous êtes attentif, vous voyez que c'est la question du conscient et de l'inconscient. Alors vous pourrez mettre où est le conscient, où est l'inconscient ? Puisque c'est la division qui se prend. Alors le conscient, normalement c'est l'âme qui est consciente. Et c'est le corps qui est inconscient. Alors, qu'est-ce qui est premier? Pour Freud, c'est l'inconscient. L'inconscient va commander le corps. Le corps va commander l'âme. Et c'est vrai, les instincts vont commander l'âme. Là, vous avez une vision diamétralement opposée à celle d'Aristote. Là, c'est très intéressant de mettre en parallèle les deux. Parce que c'est intéressant de voir comment, dans une perspective freudienne, avec l'inconscient qui commande le conscient, l'inconscient, c'est la jouissance. Et le conscient, c'est le devoir. Le conscient, c'est à base du conscient qu'on est tout le temps dans des refoulements. Parce que le devoir vous fait tout le temps avoir des refoulements. Vous venez au cours, vous n'aviez pas envie du tout d'avenir au cours. Vous aviez envie uniquement, je ne sais pas, de rester étendu sur votre lit, n'est-ce pas, en train de fumer une cigarette. C'est vraiment le point de vue de l'inconscient. Vous dites, non, je dois y aller, j'ai ma conscience, je dois y aller. Alors, vous voyez, ça fait un refoulement. C'est évident. Donc le conscient est à base de refoulement. Parce que le conscient, c'est le devoir. Et l'inconscient, c'est la jouissance. Alors, c'est l'inconscient qui demande le conscient. C'est important parce qu'on retrouve toujours, vous voyez, les mêmes choses. Hein, c'est important de comprendre ça. Alors faites la même chose entre l'autorité et celui qui exécute. Vous voyez, si vous renversez la peur, c'est celui qui exécute qui doit de fait prendre le pouvoir. Parce que c'est lui qui réalise la chose. L'œuvre est ici. Elle est dans les mains de celui qui exécute. Si elle est dans les mains de celui qui exécute, elle n'est pas dans la tête de celui qui pense. Si elle est dans les mains de celui qui exécute, c'est celui qui exécute qui doit de fait dépasser. Alors vous avez la fameuse dialectique du maître et de l'esclave, chez Hegel. Oui. Et vous tenez là les deux grands aspects, parce que c'est quand même très important, la dialectique du maître et de l'esclave commande tout l'hégélianisme et commande tout le marxisme. Et vous avez juste ici l'inverse, parce que là vous voyez Marx et Aristote. Et vous voyez bien ici comment Aristote montre que celui qui commande et celui qui exécute reposent sur cette distinction fondamentale de l'âme et du corps. Et par suite, c'est l'homme se trouvant dans la meilleure condition possible sous le rapport à la fois du corps et de l'âme qui doit faire l'objet de notre étude. Et c'est en lui que se manifeste le mieux le jeu de ces deux facteurs. Chez les gens vicieux, en effet, où se trouvant dans une disposition perverse, le corps semblera souvent commandé à l'âme en raison de l'état défectueux et dénaturé du sujet. Ainsi donc, c'est en premier lieu, dans l'être vivant, disons-nous, qu'il est possible d'observer donc l'autorité de celui qui commande, le principe du maître et l'autorité du chef politique. L'âme, en effet, gouverne le corps avec une autorité de maître. Et le nous, l'intelligence, règle le désir avec une autorité de chef politique et de roi. Ces exemples montrent avec évidence le caractère naturel et l'utilité de la subordination du corps et de l'âme. C'est non seulement quelque chose qui s'impose à nous, mais c'est utile. S'il n'y a pas ça, il n'y aura plus d'efficacité. L'efficacité est commandée par l'homme. Donc l'exécution elle-même, si elle n'est pas commandée, au bout d'un certain temps, l'exécution n'aboutira plus. L'exécution réclame d'être commandée. Ainsi que la subordination de la partie affective à l'intellect et à la partie rationnelle, tandis que l'égalité des deux facteurs ou le renversement de leurs rôles respectifs est nuisible dans tous les cas. Aristote a prévu la position de Freud. Vous voyez, en montrant que la position de Freud aboutirait nécessairement à une efficacité. Ça, on le sait. C'est inefficace. Au bout d'un certain temps, ça n'a plus aucune efficacité. Ça ne peut plus avoir d'efficacité. Parce que si vous mettez l'exécution avant, si vous mettez l'instinct avant la raison, vous aboutirez à faire des monstres. Envisage-t-on à leur tour les rapports entre l'homme et les autres animaux. On aboutit à la même constatation. Vous voyez, ce souci d'Aristote, et quand Aristote fait ça, c'est parce qu'il est en présence d'un principe. Alors il veut montrer que ce principe se réalise universellement, dans les modalités différentes, à des points différents. Oui, au niveau physique, l'harmonie, au niveau du vivant, l'âme et le corps, toujours le point de vue de celui qui commande et celui qui obéit. Envisage-t-on à leur tour les rapports entre l'homme et les autres animaux, on aboutit à la même constatation. Les animaux domestiques sont d'un naturel meilleur que les animaux sauvages. Ça, on pourrait peut-être discuter. La crinière d'un lion sauvage est plus belle que celle de la crinière d'un lion domestiqué. C'est bien évident. Ça, c'est sûr. Et les yeux d'un chat sauvage sont plus beaux et plus nobles que les yeux d'un chat qui est toujours par terre. Ils ont perdu un peu de leur noblesse. Alors, ce que dit Aristote ici, ça, les animaux domestiques sont d'un naturel meilleur que les animaux sauvages, d'un naturel meilleur. Et il est toujours plus expédient pour eux d'être gouvernés par l'homme, car leur conservation se trouve ainsi assurée. Ah, leur conservation. C'est le chien et le loup de la fontaine. Hein. Vaut-il mieux être le chien ou le loup? Aristote a l'air d'être pour le chien. Au point de vue de l'efficacité. Au point de vue de l'efficacité. Hein. Il est meilleur d'être chien avec un bon maître. Parce que vous êtes sûr que tous les jours, il rend sa pitance. Tandis que le loup, pas toujours. Sauf s'il rencontre Saint-François. Alors ça, c'est différent. Mais autrement, il risque d'être dans une situation quelquefois dramatique. En outre, dans les rapports de mâle et de femelle, le mâle est par nature supérieur et la femelle inférieure. Et le premier est l'élément dominateur et la seconde l'élément subordonné. Là encore, vous voyez, mettons des petits bémols aujourd'hui, hein, vous faire un petit peu attention. C'est nécessairement la même division. Mais ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est d'essayer de découvrir des harmoniques. Des harmoniques. Redécouvrir une division qui pour lui est fondamental. C'est pour ça que c'est la division fondamentale de la politique. Ça me semble. Vous voyez, alors ça, ce serait très intéressant à bien préciser, parce que quand il s'agit de la famille, il y a l'union de l'homme et de la femme. Puis on a dit maître et esclave. Alors, on serait tenté, nous, de dire que c'est l'union de l'homme et de la femme qui est le point de vue de l'amour d'amitié, qui commande tout. Tandis que le maître et l'esclave, c'est la coopération. Alors, je crois que les deux font de la famille. Et donc, ces deux principes qui font de la famille sont les deux principes fondamentaux pour toute la politique. Mais celui-ci est plus fondamental et celui-ci est ultime. Le bien commun va tendre vers l'amour d'amitié. Et pour que le bien commun puisse tendre vers l'amour d'amitié, il faut la coopération. Donc vous avez le premier génétique qui est la coopération et le premier selon de perfection. Et vous avez les deux clés qui commandent toute la politique d'Aristote. La coopération, l'être et l'esclave, le point de vue de l'homme et de la femme comme l'amour d'amitié. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez comprendre, vous voyez, comment l'efficacité, puisque la coopération c'est pour l'efficacité, c'est pour l'économie. Vous comprenez comment, dans la perspective d'Aristote, l'efficacité, l'économie est enveloppée de l'éthique. Il n'y a pas, pour Aristote, une efficacité à l'état pur. Parce que l'efficacité est humaine. Il n'y a pas, pour Aristote, une économie à l'état pur. Parce que c'est une économie humaine. Alors ça, c'est capital de comprendre ça. Dans la perspective d'Aristote, pour comprendre son point de vue. Pour nous, ce sera des tas de problèmes très délicats, parce que De fait, hein, quand vous voyez un économiste, il regarde l'économie et les lois de l'économie à l'état pur, sans tenir compte de l'humain. Voilà les lois de l'économie, la science économique. Ça n'existe pas pour Aristote, une science économique. Ça ne peut pas exister, parce qu'une science économique qui serait purement science économique oublierait l'homme. Alors si elle oublie l'homme, elle n'est plus politique. Elle n'est plus humaine. Oui, alors là, vous le voyez bien, je crois. Et c'est ça l'intérêt. C'est pour ça que je voulais vous lire ce petit passage qui me semble extrêmement intéressant. On peut discuter. Il y a des choses qui peuvent nous sembler un peu curieuses. C'est vrai. Aristote suscite toujours des curiosités, c'est ça. Parce que c'est très pensé. Vous voyez, nous avons là un grand raisonnement analogique. Un très beau raisonnement analogique, ça fait partie de ces grands moments où Aristote joue tous les jeux. Hein. C'est une orchestration, il veut à tout prix que ça passe. Alors pour montrer à tout prix que ça passe, il va l'enraciner dans la nature, il va le montrer dans le vivant, il va le montrer dans l'homme, on retrouvera toujours ces choses-là. Et effectivement, l'usage que nous faisons des esclaves... Et en effet, le rapport entre mal, c'est nécessairement donc la même division qu'il convient d'appliquer à l'ensemble de l'espèce humaine. Par suite, quand les hommes diffèrent entre eux, autant qu'une âme diffère d'un corps, et un homme d'une brute. Et cette condition inférieure est celle de ceux chez qui tout travail consiste dans l'emploi de la force corporelle. Et c'est là, d'ailleurs, le meilleur parti qu'on peut faire d'eux. Ceux-là sont par nature des esclaves, pour qui il est préférable, voyez bien, pour qui il est préférable de coopérer à l'autorité d'un maître, si l'on en croit ce que nous avons dit plus haut. C'est-à-dire si on essaie de comprendre ce que ça veut dire une coopération. Et en effet, esclave, par nature, alors ça c'est la définition qu'il donne au terme, il faut être très attentif à ça, et esclave, par nature, doulos. Alors, serviteur, si vous voulez, mais doulos c'est esclave, est en effet, est esclave par nature, celui qui est apte à être la chose d'un autre. C'est-à-dire celui qui est apte à être la propriété, l'avoir. C'est pourquoi il l'est en fait, et qui a la raison en partage, dans la mesure seulement où elle est impliquée dans la sensation. Son intelligence est rasmote. Ça ne va pas plus loin. Elle ne s'élève jamais très loin. Au niveau des pâquerettes et même un peu plus bas, des flaques d'eau. Alors, ça ne s'élève jamais plus. Donc, l'intelligence reste liée à la sensation, uniquement, mais sans la posséder pleinement. Le nous ne se développe pas. Et donc, il n'y a pas de prudence. Car les animaux autres que l'homme ne sont même pas capables de participer à cette forme sensitive de la raison. Mais ils obéissent passivement à leur impression. C'est la supériorité même de ces gens peu développés. C'est qu'ils ont quand même le nous. Donc on reconnaît qu'ils sont des hommes. Mais leur intelligence ne peut pas abstraire. Dans l'incapacité d'abstraire, on reste toujours au niveau des sensations. On reste toujours à ce niveau-là. Bon, rester à ce niveau-là est quand même un niveau supérieur aux animaux, parce que les animaux, eux, sont uniquement conduits par l'instinct. Et effectivement, l'usage que nous faisons des esclaves ne s'écarte que peu, hein, vous voyez bien, il faut bien voir ce que dit Aristote, hein, que peu de l'usage que nous faisons des animaux. le secours que nous attendons de la force corporelle pour la satisfaction de nos besoins indispensables provient indifféremment des uns et des autres, les mains un peu dans le même sac, hein, aussi bien des esclaves que des animaux domestiques. Alors, vous voyez, ça c'est la constatation. Quand il réfléchit, il dit attention, c'est tout à fait différent, puisque c'est un instrument dans l'ordre de l'action. Jamais un animal n'est un instrument dans l'ordre de l'action. Alors, vous voyez, il y a les deux affirmations. Il y a l'affirmation « je crois » du fait et l'affirmation du droit. Vous voyez ? De droit, l'esclave est un homme. Donc, il est tout à fait différent d'un animal, puisqu'il y a le nous. Mais comme son nous ne permet pas de s'expliciter et de s'épanouir, alors, de fait, on s'en sert comme d'un animal. Oui. C'est ça qui fait comprendre les deux aspects. La nature tend assurément aussi à faire des corps d'esclaves différents de ceux des hommes libres, accordant aux uns la vigueur requise pour les gros travaux et donnant aux autres la station droite et les rendant impropres aux besoins de ce genre, mais utilement adaptés à la vie de citoyens qui se partagent elles-mêmes entre les occupations de la guerre et celles de la paix. Pourtant, le contraire arrive fréquemment aussi des esclaves ont des corps d'hommes libres et des hommes libres ont des âmes d'esclaves. C'est important de voir ça. Il le reconnaît. Une chose du moins est claire, si les hommes libres, à s'en tenir à la seule beauté corporelle, l'emporter sur les autres, aussi indiscutablement que les statues des dieux, tout le monde admettrait que ceux qui leur sont inférieurs méritent d'être leur esclave. Et si cela est vrai du corps, bien plus justement encore, pareille distinction doit-elle s'appliquer à l'âme. Seulement, il n'est pas aussi facile de constater la beauté de l'âme que celle du corps. Très joli ça. Et ça, vous voyez, on voit le philosophe. Il constate, c'est comme ça que ça se passe. Et attention, il y a beaucoup d'injustice. Parce que une âme d'esclave qui commande est tyrannique. Il faut être magnanime pour commander. Une âme d'esclave qui commande est tyrannique. Tout le temps comme ça. Et Aristote le souligne, vous voyez, il ne fait pas plus, hein, mais il montre que de fait, il peut arriver ça. Dans la nature, c'est différent. Dans les vivants non intelligents, c'est différent. La nature l'empêche. Mais lorsqu'il s'agit de l'homme, il peut arriver ces injustices. Et normalement, hein, celui qui a une âme d'esclave, c'est-à-dire qui n'arrive pas vraiment à l'aspect spirituel, à l'aspect de l'amitié et à l'aspect de la contemplation, celui-là devrait être esclave. Il est donc manifeste qu'il y a des cas où, par nature, certains hommes sont capables de commander et d'autres pour exécuter. Et que pour ces derniers, demeurer dans l'esclavage est à la fois bien fait et juste. Celui qui est incapable d'atteindre, ouais, c'est toujours cette idée, hein, celui qui est incapable d'atteindre la prudence, c'est-à-dire de saisir l'ordre entre les moyens et la fin, parce que c'est ça la prudence, hein. La prudence c'est saisir l'ordre des moyens vis-à-vis de la fin. Seul celui qui est prudent et qui sait distinguer l'ordre qui existe entre les moyens et la fin peut commander. faudrait faire le test. Ceux qui peuvent commander, ceux qui ne peuvent pas commander. Ceux qui peuvent commander font la distinction entre les moyens et la fin. Ce n'est pas la seule qualité qu'il faut pour le commandement. Mais ça, c'est absolument nécessaire. Alors, ceux qui ont cette capacité-là peuvent commander. Ceux qui ne peuvent pas faire ce discernement, ou qui le font mal, qui constamment, pour des raisons passionnelles, transforment le moyen et la fin. Celui-là, pour cela, il est bon. Et non seulement il est bon pour eux, mais il est juste qu'ils soient ceux qui exécutent. Donc vous voyez, je voulais lire ce chapitre 5 parce qu'il est important. Hein. Il donne une des clés de toute la politique d'Aristote. Et c'est la coopération. Et donc c'est bien ce point de vue-là, cette coopération. Et cette coopération, elle se fait en impliquant l'action. Donc, elle est éthique. Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
On me pose.